La science économique doit-elle faire sa révolution copernicienne? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est une petite bombe et elle n'est pas à retardement. Le négationnisme économique que viennent de publier Pierre Cahuc et André Zilberberg chez Flammarion a immédiatement mis le feu au monde des économistes, révélant, si c'était encore nécessaire, les profonds désaccords qui sont à l'œuvre au sein de cette discipline. Les auteurs du livre appartiennent à ce qu'on appelle communément les économistes orthodoxes. Par définition, c'est leur pensée qui domine. En l'occurrence, une pensée plutôt libérale et une approche microéconomique. Face à eux, les hétérodoxes qui refusent cette domination et défendent une approche plus macroéconomique de tendance keynésienne. Alors voilà à grands traits les lignes de clivage que les médias essaient aujourd'hui tant bien que mal de respecter en donnant la parole à l'une et l'autre de ces familles de pensée. Or, pour Pierre Cahuc et André Zilberberg, cela revient quasiment, et j'exagère à peine, à donner une minute pour les Juifs, une minute pour Hitler. Selon eux, la science économique a désormais les moyens de vérifier par l'expérimentation le bien fondé des différentes théories. Or, celles qui sont défendues par des collectifs comme les économistes atterrés ne seraient rien d'autre que des croyances, puisque non validées par un examen scientifique rigoureux, d'où l'idée d'un négationnisme économique. Alors, la science économique doit-elle faire sa révolution copernicienne? Eh bien, nous en discutons ce soir avec deux acteurs, deux économistes acteurs de ce débat. Commencez par vous, Pierre Cahuc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'École Polytechnique, membre du Conseil d'analyse économique, et vous êtes donc un des auteurs de cet ouvrage dont je rappelle le titre, Le négationnisme économique et comment s'en débarrasser, publié chez Flammarion. Et pour discuter avec vous, quelqu'un qui fait partie des économistes ciblés dans votre ouvrage, puisqu'il appartient au collectif des économistes atterrés, il s'agit de Benjamin Coria, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'université Paris 13, les économistes atterrés, donc ont publié un certain nombre de manifestes aux éditions Les Liens qui libèrent, et qui ont publié jeudi dernier un communiqué suite à l'apparition de ce livre, faut-il mettre fin au débat en sciences économiques? C'est-à-dire que vous êtes assez en colère par rapport à ce qui y est dit, mais j'aimerais et j'espère que ce soir nous aurons l'occasion d'avoir un vrai débat de fond, mais peut-être d'abord pour évacuer entre guillemets ces mots qui fâchent, et notamment celui de négationnisme. Dans mon lancement, je disais Pierre Cahuc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais que quand vous parlez notamment des économistes atterrés, de la place qui leur est donnée dans les médias, place qui selon vous n'a aucune commune mesure avec la qualité de leurs travaux scientifiques, je disais voilà, c'est un peu comme si on donnait une minute pour Hitler, une minute pour les Juifs. Je suis pas sûr que je me serais permis cette comparaison là si vous n'aviez pas utilisé le terme de négationnisme. Est-ce que ça n'est pas un terme un peu fort, et comment est-ce que vous le justifiez aujourd'hui, ce terme là?
Bon, je remercie tout d'abord de me donner la parole, parce que sous notre ouvrage, il y a énormément de choses qui sont dites et qui ne correspondent absolument pas à ce qui est dans l'ouvrage. Je voudrais en profiter pour signaler que les auditeurs de France Culture, sur ce sujet, ont été victimes de désinformations de la part de Sylvain Bourmeau la semaine dernière, ou plutôt samedi. Sylvain Bourmeau affirme dans son émission que dans notre ouvrage, le négationnisme économique, nous proposons un programme d'éradication de tous les collègues avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Alors sur ce sujet, ça va répondre à votre question, je voudrais vous indiquer ce que nous disons dans notre ouvrage.
Je précise par ailleurs que vous êtes déjà venu en parler de cet ouvrage, aussi sur France Culture, à la Grande Table, chez Olivier Gisbert.
Voilà, mais avant cette intervention...
Alors le négationnisme, c'est vrai que c'est quand même un terme extrêmement fort. Ça,
voilà, mais je voudrais juste dire ce que nous disons dans notre ouvrage sur le débat, puisque le sujet, c'est est-ce qu'on veut clore le débat. Je cite notre ouvrage. « Les journalistes devraient cesser de faire systématiquement appel aux mêmes intervenants, surtout lorsqu'ils n'ont aucune activité de recherche avérée, tout en étant néanmoins capables de s'exprimer sur tous les sujets. Ils devraient plutôt solliciter d'authentiques spécialistes. Le classement de plus de 800 économistes en France sur le site IDIS, un site internet qui classe les chercheurs, peut les aider à sélectionner les intervenants pertinents. Donc ce que nous recommandons, c'est d'ouvrir le débat. C'est d'ouvrir le débat, effectivement, à une palette de chercheurs qui travaillent, qui sont anonymes et qui font des choses passionnantes qu'on raconte dans notre ouvrage. Donc ça, c'est notre objectif. D'accord ? Donc, sur le terme négationniste, qu'est-ce qu'on entend par négationnisme économique ? Nous nous référons à des travaux que l'on retrouve dans les débats sur les sciences, qui dénoncent le négationnisme comme une rhétorique. Le négationnisme économique, ou scientifique, c'est une rhétorique qui consiste à disqualifier un consensus scientifique grâce à deux types de discours. Premièrement, la dénonciation d'une pensée unique. C'est le manifeste des économistes atterrés et sous-titré « À quoi servent les économistes s'ils pensent tous la même chose ?» C'est une manière de disqualifier. Et deuxième outil de la rhétorique, c'est évidemment la conspiration. Les économistes dits orthodoxes par les autoproclamés hétérodoxes, eh bien évidemment, sont victimes de la conspiration des marchés financiers. Ils sont au service des marchés financiers. C'est aussi ce qui est répété dans le manifeste des économistes atterrés. Donc, ce que nous dénonçons, ce n'est pas une pensée différente. C'est une pensée qui disqualifie une autre pensée. C'est ça le négationnisme scientifique. Et vous en avez une définition partout sur le blog du Monde. Allez lire le blog du Monde, les passeurs de science. Ce terme est très souvent utilisé. Il correspond exactement à ceci.
Est-ce que vous vous reconnaissez, j'imagine que non, dans cette démarche que vient de décrire Pierre Cahuc, Benjamin
Coria? Bien sûr que non. Alors d'abord, je voudrais venir au secours de votre collègue de France Culture. Je n'ai pas entendu l'éditorial en question. Peut-être que le mot « éradiquer » a été prononcé, et dans ce cas-là, c'est à peine exagéré. Mais le livre indique les négationnistes et comment s'en débarrasser. Vous voyez bien qu'entre se débarrasser et éradiquer, on n'est vraiment pas très loin. Et donc l'intention du livre...
C'est se débarrasser du négationnisme, pas des négationnistes. Merci. Ce qui est une petite nuance.
C'est pas très différent parce que l'idée est bien de se débarrasser des prétendus négationnistes qui pour certains d'ailleurs sont nommés, désignés, etc. en s'étonnant de ce qu'ils aient le droit à la parole sous prétexte qu'ils ne reconnaîtraient pas le consensus. Heureusement qu'ils ne reconnaissent pas le consensus et sous prétexte que on y reviendra parce que une grande partie des vérités dites en ce qui concerne l'économie d'aujourd'hui n'est possible que parce que nous ne suivons pas le consensus, d'une part. Et d'autre part, sous prétexte que ces personnes refuseraient de passer par la revue par les pairs, c'est-à-dire d'éditer et de publier dans des revues scientifiques. Ce qui est une contre-vérité totale. Je ne vais pas faire l'affront Pierre Cahuc de lui dire que son contradicteur à France Inter a plus de revues, d'articles dans des comités scientifiques que lui-même. Bon, et pourtant, il est désigné comme négationniste. Donc, moi, je veux bien...
Alors, de qui s'agit-il? Parce que, pardonnez-moi, je connais pas son contre...
Notre collègue Henri Sterdignac.
D'accord.
Par exemple, on pourrait en prendre d'autres. Bon, donc, moi, je veux bien que aujourd'hui, Cahuc et son acolyte, Monsieur Zilverberg, compte tenu du scandale qu'ils ont prononcé, parce que on peut revenir aussi sur le mot négationnisme, on peut jouer et dire, ah oui, mais il y a des négationnistes scientifiques, il y a l'industrie du tabac, etc. Bien, jouer sur les mots avec la charge que porte cette notion, ça ne peut pas être innocent, surtout lorsqu'on est un agrégé de sciences économiques. Donc c'est bien à dessein, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, qu'on joue avec un certain nombre de limites, et pour tout dire qu'on les dépasse. Voilà. Donc, je me réjouis de voir que Cahuc recule sur un certain nombre des affirmations du livre. J'appelle à lire le livre.
Je cite le livre,
et vous
je
verrez.
Ne recule pas.
Ah oui, mais...
Je cite le livre,
oui,
page
oui, non,
184.
Mais il y en a
pas.
Bien d'autres dans le livre. Dans le livre, il est dit, ce livre n'a pas d'autre objet que de débusquer les négationnistes et de leur... et d'empêcher... leurs paroles dans le débat scientifique.
Jamais.
Donc, mais bien entendu, alors j'invite les lecteurs à lire ce livre.
Merci.
S'ils sont capables d'aller au bout, d'ailleurs je les félicite, mais en tout cas au bout d'une trentaine de pages, ils verront à quoi ils ont affaire.
Alors juste
un mot quand même, oui. C'est un magnifique paradoxe de prétendre lancer un débat scientifique avec un livre qui ne l'est absolument pas, qui est du niveau d'Éric Zemmour, pour parler tout à fait clairement, et qui par exemple sur la question clé, à savoir l'économie est-elle une science, n'a pas une seule référence. Une sur je ne sais pas combien.
Alors justement, sur cette question, parce que nous sommes trois dans ce studio à avoir lu le livre de Pierre Cahuc et d'André Zilberberg, et ce que j'en ai notamment retenu, et ce qui me semble vraiment intéressant, c'est-à-dire malgré tout, c'est le débat de fond, même si je comprends tout à fait qu'il y ait une controverse qui soit forte, parce que les attaques existent quand même dans votre livre.
Elles sont inacceptables.
Bref, en tout cas, ce que vous dites, Pierre Cahuc, et moi ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent d'avoir accès à une immense base de données, de les traiter de manière beaucoup plus fine qu'on ne pouvait le faire auparavant, et qu'en gros, la science économique est en mesure aujourd'hui de vérifier, de valider ou d'invalider certaines théories, ce qui lui permet d'accéder au rang de science, si ce n'est de science dure, mais en tout cas de science expérimentale. Est-ce que c'est cela que vous voulez dire? Et que, du coup, à partir du moment où on invalide certaines théories par la vérification que permet voilà, notamment le traitement de ces données importantes, il n'y a pas de raison qu'on revienne sans cesse sur ce qui formerait un consensus des chercheurs.
Non, ce que raconte notre livre, c'est une révolution qui existe depuis 3 décennies à peu près en économie, qui est liée à l'abondance des données, qui a permis de mettre en relation, de mettre en évidence des relations de cause à effet à partir de méthodes expérimentales que l'on retrouve dans d'autres disciplines comme la biologie ou la médecine. Donc, pour voir quel est l'effet du salaire minimum, on regarde quelle est l'évolution de l'emploi dans des régions qui sont touchées par une augmentation du salaire minimum. On l'a comparé à des régions proches qui ont les mêmes caractéristiques, qui ne sont pas touchées par une augmentation du salaire minimum. D'accord ? Et on peut trouver des résultats très, très, très surprenants. Le fait, par exemple, que le salaire minimum peut être favorable à l'emploi. Idem sur l'immigration. On regarde quelles sont les conséquences de vagues migratoires sur des régions qui sont affectées par une vague migratoire et d'autres voisines qui avaient les mêmes évolutions démographiques dans le passé et qui ne sont pas affectées. On regarde quel est l'effet sur l'emploi. Là encore, ce que trouvent les économistes, c'est que lorsqu'il y a des gros chocs migratoires, on trouve très peu d'effets, en général, sur le chômage des résidents, sur le salaire des résidents. Il y a énormément de travaux sur ça. Donc c'est ça qu'on met en évidence, c'est ce travail, mais c'est un travail, effectivement, donc il fait des expériences dans des contextes différents, et donc on accumule, peu à peu, des connaissances. Donc c'est pas un travail du tout qui porte sur les théories. En fait, on fait des théories pour essayer de comprendre comment des mêmes événements dans des environnements différents aboutissent à des résultats différents. D'accord ? Donc c'est ça l'économie, se transforme peu à peu dans une discipline qui est de plus en plus proche des faits et qui a vraiment une logique fondamentalement expérimentale. C'est complètement a-idéologique. On essaie de comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure.
Est-ce que vous avez, vous, une opposition de principe par rapport à cette approche strictement pragmatique, comme l'a décrit Pierre Caluc, Benjamin Coria ?
Mais bien sûr que non. C'est l'une des forfaitures du livre. C'est double forfaiture. La première, c'est de faire croire que la science économique est basée sur l'expérimentation en double aveugle, etc., depuis 30 ans, tatata. Je crois qu'on a travaillé depuis, vous voyez, parce qu'on travaille bien, on a travaillé depuis dans les dernières livres raison de l'American Economic Review, qui est la grande revue mainstream, machin, etc., 4% des articles font référence à des travaux basés sur de l'expérimentation en double aveugle ou sous d'autres formes d'expérimentation.
Je reviendrai
sur
ce point.
Tout ceci pour dire quoi ? Tout ceci pour dire que c'est l'une des méthodes existantes, qu'elle est capable de produire des résultats qui peuvent être tout à fait intéressants, on n'a aucun souci là-dessus, mais que comme les autres méthodes, elle a aussi ses faiblesses qui doivent être discutées. Le grand théoricien de ces pratiques a lui-même fait un long article pour montrer toutes les limites de ces méthodes. Bon, donc, pas de souci, c'est l'une des méthodes importantes. La forfaiture, c'est quoi ? C'est au nom de un peu de pratique de l'expérimentation suivant ces méthodes, de faire croire que, du coup, l'ensemble de la science économique est devenu basé sur de l'expérimentation en double aveugle, que c'est une méthode incritiquable, que c'est une méthode incritiquable, et que ceux qui s'opposent à ça sont des négationnistes. Double forfaiture. Premièrement, nous ne nous opposons pas à ces méthodes. Elles sont tout à fait capables de dire des choses. Mais deuxièmement, on ne peut pas, sous prétexte que ces méthodes sont utilisées, laisser croire que tout le reste, tout ce qui est basé sur l'hypothèse des marchés autorégulateurs, tout ce qui est basé sur l'hypothèse que plus on dérégule, mieux on se porte, ce qu'on a entendu dans des centaines d'articles de revues à comité de lecture au moment de la dérégulation financière, quand nous opposions la dérégulation financière, on était une petite minorité. On ne nous disait pas qu'on était négationniste, ça c'est une invention très récente. On nous disait qu'on était des marxistes brontosaures, etc. Bien.
Mais Benjamin Coria,
en fait, nous avions raison.
Benjamin Coria,
nous avions tout simplement raison.
Est-ce que ça n'est pas justement l'utilisation d'expérimentation par la science économique qui vous a permis de démontrer que vous aviez raison sur cette question de la dérégulation financière ?
Non, mais il faut bien voir deux choses. Utiliser des données empiriques, les traiter de différentes manières, à travers des modèles, à travers la recherche de corrélations, à travers éventuellement des expérimentations, fait entièrement partie de la méthode scientifique. Et bien entendu, nous y référons simplement. Ce que nous critiquons, c'est pas ça. Ce que nous critiquons, c'est, alors, la science économique doit faire sa révolution copernicienne, oui. C'est-à-dire, elle doit abandonner un certain nombre d'hypothèses, en tout cas le mainstream, doit abandonner un certain nombre d'hypothèses constitutives. La science économique est aujourd'hui une science axiomatique, c'est pas du tout une science expérimentale. Donc elle doit abandonner un certain nombre d'hypothèses sur le comportement des consommateurs, sur le caractère autorégulateur des marchés, etc. etc. C'est-à-dire, par exemple, abandonner toutes les hypothèses que Cahuc utilise dans son petit livre sur qu'est-ce que la microéconomie.
Donc là, on est vraiment au cœur du débat. Est-ce que la science économique est une science axiomatique ou une science expérimentale, Pierre Cahuc?
Alors, je voudrais revenir sur la place, en fait, de, effectivement, l'approche expérimentale en économie. Alors, si on a une approche très, très étroite du sujet, effectivement, on peut penser que ça a une petite place. Mais toute l'économétrie, aujourd'hui, quand on ouvre ce qu'on appelle l'économétrie, c'est le traitement des données. Le traitement des données, aujourd'hui, le traitement des données sert à mettre en évidence des relations de cause à effet. Et on adopte de toute façon une démarche de type expérimental, même si la démarche ne se fait pas avec une expérimentation en double aveugle. Ce qu'on appelle les expériences naturelles, ce que nous racontons dans notre ouvrage. Toutes les méthodes économétriques aujourd'hui en économie qui cherchent à traiter les données, cherchent à mettre en évidence des relations de cause à effet. On cherche à savoir quel est l'effet des dépenses publiques sur le PIB, on cherche à savoir quel est l'effet d'une année supplémentaire d'éducation, on cherche à savoir quelles sont les conséquences de la mixité sociale. Sur tous ces sujets, on mobilise les données avec des techniques différentes, des techniques économétriques, statistiques différentes, mais qui toutes ont pour but de mettre en évidence des relations de cause à effet. Et c'est ça que nous disons. Et aujourd'hui, par exemple, il y a une enquête
qui
sur ce sujet.
À ça
qui s'oppose mais justement, à ça et alors ce que
alors,
nous, mais
alors,
personne ne s'oppose à ça. Et tout cela, les négationnistes, je l'ai expliqué tout à l'heure,
non,
le négationnisme, c'est
et c'est des gens qui utilisent
le négationnisme,
ces méthodes.
C'est la méthode qui consiste à dénigrer une discipline en disant qu'elle relève d'une pensée unique et qu'elle est guidée par une conspiration. C'est le contenu du manifeste des intérêts. C'est ça
absolument
que nous dénonçons,
pas.
Mais peu importe, allons sur le fond du sujet qui nous intéresse. Donc aujourd'hui, l'économie, c'est ça, c'est le traitement des données. Il n'y a rien d'idéologique dans ce sujet. L'économie est en train de faire sa révolution copernicienne. Et c'est ce que nous racontons dans notre ouvrage. Dans notre ouvrage, nous racontons cette révolution copernicienne dans de très nombreux domaines, dans le domaine de l'économie de l'éducation, dans des domaines sociaux, sur les politiques macroéconomiques. Dans tous ces domaines, il y a une véritable révolution copernicienne grâce au big data.
Mais à trop se référer justement à cet aspect expérimental, Pierre Cahuc, est-ce qu'on ne prend pas le risque de vouloir voir des règles intangibles alors que finalement chaque expérience grandeur nature, puisque les données elles viennent bien d'expériences grandeur nature, disons, c'est-à-dire on constate ce que provoquent par exemple certaines décisions économiques sur un environnement, mais est-ce que chaque expérience n'est pas une expérience à part et que vouloir dupliquer des décisions parce qu'elles ont eu tel effet, est-ce que ça n'est pas nier que chaque expérience est unique, chaque groupe social étudié s'inscrit justement dans un contexte très particulier, les pays ne peuvent pas être comparés, les époques ne peuvent pas être comparées. Enfin, est-ce que ça, c'est pas quand même une limite importante?
Mais c'est le sujet dont traitent les économistes. C'est le sujet dont traitent aujourd'hui les économistes qui cherchent à faire des expériences dans des environnements différents et ensuite à élaborer peut-être des modèles qui sont complémentaires de cette approche, qui s'insèrent dans cette approche pour essayer de comprendre pourquoi, dans des environnements différents, par exemple, une politique de mixité sociale peut avoir des effets pervers aux États-Unis alors qu'elle peut avoir des effets positifs en France. Pourquoi les rendements d'éducation sont différents dans différents pays? C'est ça que nous faisons au quotidien, que font les centaines de chercheurs qu'on vous demande de faire venir sur les plateaux pour vous raconter ce qu'ils font. Ils font des choses fantastiques en utilisant des montagnes de données de manière complètement idéologique.
Bon. Justement, alors, dans le livre de Pierre Cahuc, Benjamin Coria, il y a un chapitre, par exemple, qui est consacré aux politiques keynésiennes, avec là aussi, alors, justement, plusieurs observations qui sont menées, et avec cette conclusion, alors vous allez dire, ça peut-être pas être pas beaucoup avancé le Schmilblick, mais que dans certains cas, en tout cas, les politiques keynésiennes peuvent avoir un effet bénéfique sur l'activité économique, mais pas dans d'autres. C'est une approche pragmatique, cette approche.
Non, mais
là,
c'est une
approche
intéressante. Ils ont découvert l'eau chaude. Ça veut dire que Keynes lui-même explique discute en long, en large et en travers les conditions dans lesquelles il faut passer ou non par de la relance budgétaire ou pas. Donc je veux dire, franchement, sur ce point, ils ont découvert l'eau chaude. Revenons, et ils présentent ça comme une formidable avancée de l'expérimentation scientifique. C'est des choses qu'on sait depuis 1936, en
pas
gros.
Pas du tout, mais Keynes n'avait pas de données, Benjamin. Aujourd'hui, il y a des données pour le montrer. Keynes avait une théorie.
Mais il y a eu des données pendant toute la crise des années 30 qui ont indiquer les conditions dans lesquelles, et tous les travaux qui ont été faits à cette époque et après, les conditions dans lesquelles c'est efficace, ça l'est moins, etc. Non, la vraie discussion, c'est pas celle-là. La vraie discussion, c'est faut-il utiliser des données ? Bien entendu. Les données nous enseignent-elles des choses ? Bien entendu. Nous enseignent-elles des choses certaines ? Ça, c'est une autre question. Tout dépend de la manière dont elles sont assemblées, traitées, modélisées, etc. La vraie question, c'est quels sont les paradigmes à partir desquels on construit les modèles qui permettent d'utiliser les données et donc les résultats qu'on obtient derrière. Alors, faisait référence.
Quelle est la réponse que vous apportez justement à cette question ? C'est-à-dire est-ce que vous considérez que les modèles sont déjà idéologisés et donc que les résultats...
Bien entendu. Parce que tout modèle comprend un certain nombre d'hypothèses, a une sensibilité particulière à un certain nombre de paramètres et donc, d'une certaine manière, contient un peu le résultat auquel on va parvenir. Pas de souci, c'est pas pour autant qu'il faut pas utiliser des modèles, mais il faut pas présenter ça comme la vérité dernière. Alors je voudrais quand même relever un point. Le manifeste des économistes atterrés, dit les marchés sont-ils efficients ? Non, ils ne sont pas efficients. On a tort. Le manifeste des économistes, on a tort.
Les marchés ne sont pas efficients, mais toute l'économie le reconnaît aujourd'hui. Lisez l'ouvrage de Jean Tirole. Jean Tirole martèle le fait que les marchés ne sont pas efficients. Il vient d'avoir le prix Nobel pour ses travaux.
Mais tant mieux que Jean Tirole se soit converti à l'idée que les marchés ne sont pas efficients.
Il le dit depuis 30 ans.
Mais c'est au nom de cette doxa-là, et tu le sais fort bien, des centaines d'articles ont été publiés, c'est au nom de cette doxa-là qu'on a pratiqué la déréglementation financière, la déréglementation dans toute une série de domaines et que aujourd'hui d'ailleurs on est en train d'essayer de pratiquer la déréglementation dans le domaine du travail. Bien, nous disons par ailleurs dans le manifeste des économistes atterrés, nous disons par ailleurs pratiquer de l'austérité, des coupures budgétaires dans une situation de crise va conduire à des résultats catastrophiques. On a eu tort, mais bien sûr qu'on a eu raison. Et qui l'a dit ça ? Nous ?
Tout le monde, Benjamin, le disait.
Non, absolument pas. À ce moment-là, absolument. Écoute, on a écrit ce petit bouquin qui s'appelle « L'Europe maltraitée » pour dénoncer l'accord qui avait été passé à un moment où... l'orthodoxie nous expliquait que il fallait absolument juguler la dette, qu'on faisait porter sur nos enfants et nos petits-enfants des risques majeurs, etc. J'aurais bien aimé, sors-moi un papier expliquant que, comme nous l'avons fait, que le moment n'était pas à la réduction de la dette.
Alors, Pierre Cahuc, pour rebondir sur ce que vient de dire Benjamin Coria, sur les questions, par exemple, des politiques d'austérité. Comme vous le dites, finalement, tout le monde disait que ce n'était pas les bonnes politiques à suivre, parce qu'on, justement, on savait, notamment, à partir d'un certain nombre de données, que c'était pas les politiques à suivre. Comment se fait-il que la communauté des chercheurs économiques quasi unanimes sur ce sujet n'ait pas été eu les moyens et n'ait pas eu la capacité de convaincre les politiques que les décisions, les politiques d'austérité étaient mauvaises. C'est ça qui est compliqué à comprendre, en fait.
Mais aujourd'hui, dans les économistes représentatifs de l'économie que Benjamin appelle orthodoxe, nous avons Stiglitz, nous avons Krugman, qui sont des économistes.
Moi, je pense que Stiglitz ferait un bon si tu le mettais dans les orthodoxes. Il ferait un bon. Il passe son temps à dénoncer.
Justement, le sujet, c'est comment.
Il est dans le coin en ce moment. On lui demandera
comment fonctionne.
Absolument.
La question que je pose ici, c'est nous avons une discipline qui produit des connaissances. et donc au sein de laquelle il y a des débats. Donc certains économistes avaient souligné le danger d'une crise financière, des économistes que vous appelleriez orthodoxes, et d'autres pensaient que, eh bien, la crise financière était arriverait peut-être plus tard. Pourquoi? Alors je voudrais insister sur ce
Rubini
point.
Qui n'a publié aucun article scientifique.
Non, beaucoup de personnes. Je voudrais insister sur un point sur un point. Ça aussi, si vous voulez, c'est une stratégie qu'on retrouve. Je regrette aller sur le blog du Monde dans la stratégie. Tu vas sauter sur ta chaise, mais dans la stratégie négationniste qui consiste à dénigrer une discipline, on souligne l'échec d'une discipline et on jette la discipline parce qu'elle est incapable de prévoir des choses qui sont imprévisibles.
Mais c'est pas la discipline qu'on rejette.
On ne peut pas prévoir les crises financières. Ce sont des événements qui sont extrêmement rares. On ne peut pas les prévoir de manière certaine. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas prévoir les météos à 3 mois. On ne peut pas prévoir s'il y a une crise financière dans un an en France ou dans un autre pays.
Ça, c'est sûr que quand on a un paradigme que les marchés sont autorégulateurs, on ne peut pas prévoir les crises financières.
Ce paradigme n'existe plus.
C'est compris dans le prix. Ben, je suis content de te l'entendre dire et je voudrais que tu l'écrives. C'est tout à fait faux ce qui vient d'être dit. Je veux dire, il y a un certain nombre de théoriciens qui appartiennent à l'hétérodoxie, en particulier, alors je vais citer un étranger, Minsky, mais parmi les Français, Robert Boyer, Michel Aglietta, etc., qui n'ont pas cessé d'annoncer que la manière dont on avait déréglementé les marchés financiers ne pouvait conduire qu'à des catastrophes. Alors, la question de savoir à quel moment ça allait exploser, oui, ça, on ne pouvait pas le dire. Mais, je veux dire, l'idée qu'il fallait absolument revenir en arrière, réglementer les marchés, etc., a été dit d'un seul côté, pas de l'autre. Moi, je voudrais... Les quelques individus que tu cites sont absolument des électrons libres dans le monde de l'orthodoxie. Et il faudrait, moi je suis pour, hein, je suis pour prendre l'American Economic Review, prendre Chicago, alors là ça serait encore plus drôle, le Quarterly Journal of Economics, et regarder la quantité d'articles qu'ils ont consacrés au fait que la dérégulation financière était ce qu'il y avait de mieux. D'ailleurs, lorsqu'il a fallu réglementer les produits dérivés de type subprime, etc., le président de la Fed a consulté le consensus des économistes qui lui a dit « Ah ben non, il ne faut surtout pas réglementer les subprimes. »
Mais regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Comment vous expliquez dans ce cas, Benjamin Coria, que ces économistes, de vous considérer peut-être à juste titre qu'ils ont eu tort en tout cas, soient aussi nombreux et soient quand même largement majoritaires? Dans le livre de Pierre Cahuc, justement, il fait référence aux publications des chercheurs en économie.
Non, c'est encore un truc biaisé parce que REPEC, c'est l'un.
Alors REPEC, faut dire ce que c'est.
Voilà,
c'est
l'un des
un site collaboratif
dans lequel les économistes
pays.
Décident voilà. ou non de s'inscrire, etc. Il y en a plein d'autres. Il y a ResearchGate, il y a Academia Edu, etc. Par hasard, c'est à celui-là qui s'est référé.
Prenez l'université, par exemple. L'université, on ne peut pas dire que les économistes hétérodoxes soient très nombreux. Donc comment autant d'économistes pourraient avoir tort?
Je regrette que mes amis de la FEP ne soient pas là parce qu'ils vous expliqueraient bien comment se font les processus de sélection à l'intérieur de l'université, sur quels critères et pourquoi nous nous retrouvons dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais ce qui me paraît important, parce que c'est ça la question, et c'était ça le sens de notre communiqué aux économistes atterrés. On n'est pas d'accord avec le paradigme dominant, mais on n'a pas écrit qu'il faut les éradiquer, qu'il faut s'en débarrasser, etc. On a juste revendiqué le droit à ce qu'un paradigme rival existe, que la discussion scientifique puisse être menée et que les implications sociales et économiques des différentes positions puissent être explicitées. Je veux dire... Voilà, on peut pas parler de tout, mais c'est vrai que sur la loi El Khomri...
Non mais, je vais répondre sur ce point, c'est très important.
Cahuc défend la loi, alors, trouve qu'elle ne va pas assez loin, nous sommes contre, bien. Faut-il nous faire taire?
Ce n'est pas le sujet, il faut discuter ensemble, on le voit ici. Ce qui est vraiment frappant, ici encore, une stratégie pour sortir du débat, consiste à dire qu'il y a une pensée unique, on ne peut pas discuter avec cette
pensée
unique.
Mais on ne fait que ça.
Et donc, ce que nous disons, c'est que, eh bien, on peut discuter. Vous voyez bien ce qu'on montre dans notre ouvrage. Ce que nous montrons dans notre ouvrage, c'est qu'il y a une grande diversité de sujets et une grande diversité de méthodes. Tout est possible. On peut publier des articles qui ont toutes les formes. Donc, il n'y a pas de pensée unique, de dogmatisme, d'idéologie.
Donc, vous acceptez, par exemple, Pierre Cahut, qu'on puisse considérer que la loi travail est mauvaise et en débattre avec des gens qui considèrent qu'au contraire, la loi travail est intéressante et même devrait aller plus loin.
Mais ça dépend sous. Le problème, c'est que ça dépend sous quelle forme. Est-ce qu'on peut débattre comme ça ou alors est-ce qu'on peut dire, voilà, les données nous disent, par exemple, je vais prendre l'exemple des 35 heures, c'est un exemple ouais. simple.
Ben oui.
Sur la réduction de temps de travail, il y a eu quelques expériences qui ont été faites. Quelques expériences dans les rares pays où il y a eu des expériences de baisse de la durée du travail. Toutes ces expériences sur des travaux publiés montrent que, sauf, je vais préciser,
c'est
toutes
faux.
Les expériences sur des baisses pures de la, baisse de la durée du travail sans, qui ne sont pas accompagnées de baisse de charge montrent qu'il n'y a jamais eu de création d'emploi. Jamais. Alors, donc, ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, dire que passer à 32 heures permettrait de créer des emplois, eh bien, ne repose sur aucune évidence empirique. Si un nouvel article montre quelque chose de différent, nous serions très heureux de changer d'avis.
Est-ce que ça veut dire juste une petite question encore supplémentaire à Pierre Cahut, puisque comme vous vous adressez aussi aux journalistes en disant bah voilà, vous devriez aussi faire un petit peu attention dans les choix de vos invités. Est-ce que ça veut dire que par exemple vous nous conseilleriez au grain à moudre par rapport à ce que vous venez de dire sur la diminution de temps de travail de ne pas organiser de débats contradictoires sur faut-il baisser le temps de travail, faut-il aller à la semaine de 32 heures pour créer des emplois. Est-ce que ça, par exemple, moi je participerais à ce négationnisme dont vous parlez dans votre livre?
Non. Ce que nous disons, c'est que les débats doivent être organisés autour d'une discussion sur les connaissances qui existent. Et là, les connaissances qui existent sont les articles qui sont publiés.
Oui, mais là, vous dites que les connaissances démontrent que, justement, baisser le temps de travail, ça ne permet pas de...
Mais
de
ensuite, on peut discuter des limites de cette connaissance. On peut discuter des limites de ces articles. Mais c'est ça, le débat est là. Et donc, c'est pour ça qu'il est intéressant d'inviter des chercheurs qui vous expliqueront comment ils ont trouvé ces résultats, plutôt que des personnes qui ne citent même pas ces articles.
Bon, bah, finalement, c'est plutôt raisonnable.
C'est extraordinaire d'entendre ça. Mais non, mais parce que vous n'êtes pas économiste et que vous n'êtes pas dans le métier. C'est la thèse de Cahut que la réduction de la durée du travail ne crée pas d'emploi. Et il a une thèse extrêmement précise. Il faut que baisser les charges aux alentours du SMIC et surtout pas au-dessus. Tout le reste, c'est zéro. Voilà.
Ce n'est pas ma thèse.
Bien sûr que c'est ta thèse. Écoute,
c'est le résultat de tous les travaux publiés sur le sujet.
Alors justement, j'y viens. Allons-y. J'y viens. On a l'impression qu'il ne lit pas les travaux des autres. Alors, par exemple, l'expérimentation à laquelle il fait référence, qui est un petit article sur la Moselle, arrive à la conclusion que la réduction de la durée du travail ne crée pas d'emploi. Alors, en fait, ce qui est testé, c'est une réduction de 20 minutes. Vous voyez ? Alors, à partir de ça, on en fabrique des tartines.
Il y a plusieurs articles, Benjamin, tu le sais très bien, Québec,
juste en face, il y a une énorme étude de l'OFCE, il y a une énorme étude de l'INSEE expliquant que la réduction de la durée du travail au moment du passage aux 35 heures s'est traduite par 350 000 emplois. Alors ça n'existe pas.
Oui. Non.
Ça n'existe pas.
Non, ça existe bien sûr.
Éric Ayer vient de publier dans Alternative économique un petit article. Éric Ayer, qui est un des grands spécialistes de ces questions et qui travaille à l'OFCE, vient de publier un petit article où il fait la synthèse des travaux, parce que c'est pas simple cette question. C'est pas simple. Et dans lequel il donne 12 papiers de bibliographie dans les meilleures revues possibles pour expliquer que toutes ces revues établissent un lien entre réduction de la durée du travail et création d'emplois.
Mais est-ce que sur cette question,
ça n'existe pas.
Mais est-ce que
ça
fait partie
des négationnistes ?
Est-ce que du coup, pour vous, Benjamin Coria, je vais vous laisser répondre, mais est-ce que du coup, pour vous, Benjamin Coria, vous pourriez dire, finalement, de la même manière que le dit Pierre Cahut dans son livre, c'est-à-dire, des fois ça marche, des fois ça marche pas, vous pourriez là aussi dire, des fois la réduction du temps de travail ça marche, des fois ça marche pas.
Bien entendu, tout dépend du contexte, des conditions d'accompagnement, et le texte auquel il fait référence sur « Réfléchissons à un passage aux 32 heures », c'est un texte qui marche sur des œufs et qui dit, compte tenu des conditions dans lesquelles nous sommes, où on est coincé, tiens, réouvrons le débat et voyons dans quelles conditions on peut recréer de l'emploi à travers la réduction de la durée du travail. C'est un texte vraiment extrêmement précautionneux et il présente ça comme un truc de négationniste, le couteau entre les dents.
C'est là que ce débat finalement me surprend un peu parce que j'ai l'impression que finalement, vous n'êtes pas si éloigné que ça. Alors, effectivement, il y a des termes qui sont employés qui prêtent à la polémique.
On n'a jamais jeté l'anathème et l'insulte à la manière dont ils le font.
Voilà, ce qui pervertit peut-être un peu le débat.
Sur ce point, je ne suis pas d'accord. Mais bon, traités économistes de pensée unique et au service des marchés financiers depuis des années.
Mais ce n'est pas nous qui avons inventé ça. La notion de pensée unique, ce n'est vraiment pas nous qui l'avons inventé.
Je vais revenir sur le temps de travail. Le temps de travail. L'article dont parle Benjamin Coriat est un article qui étudie, avec une approche effectivement expérimentale, la baisse de la durée du travail liée aux 35 heures, qui était accompagnée de baisse de charges. Mais il y a eu deux choses qui sont arrivées en même temps. Donc on est incapable d'identifier l'effet spécifique de la baisse de la durée du travail. Comme je dis, tous les articles qui étudient l'effet à partir d'une approche expérimentale.
Mais on va vous dire, les résultats, vous les prenez quand ils vous arrangent
et puis
vous les
écartez. Si vous faites une expérience et que vous mélangez deux produits. Pour voir quelles sont les conséquences de cette expérience, vous ne pouvez pas isoler l'effet d'un des deux produits. C'est exactement ça, d'accord ? Et tous les travaux qui étudient l'effet isolé des 35 heures, ça tout le monde le reconnaît, n'ont jamais trouvé d'effet positif sur l'emploi. Les travaux qui se passent sur une approche expérimentale. Ensuite, on peut faire des modèles théoriques. Ce sont les autres travaux auxquels se réfère Éric Ayer qui montrent que, effectivement, sous certaines hypothèses, la baisse de la durée de travail peut créer des emplois. C'est vrai, on peut faire des modèles de ce type-là. Mais dans les faits, nous ne sommes jamais rentrés dans ces hypothèses. Et voilà, donc c'est ce que nous disons simplement. Mais je serais très heureux personnellement de pouvoir baisser le chômage en baissant la durée du travail. Mais je dois avouer aujourd'hui en tant qu'économiste, que scientifique sur ce sujet, je ne connais aucun travail publié qui me permette d'affirmer ceci. Et ça s'arrête, voilà, le débat n'est pas clos.
Juste quand même pour
publier des articles qui nous montrent que ça marche. J'en serais heureux, je militerais pour la baisse de la durée du travail.
Pour que les auditeurs comprennent bien la position de Gaëlle, parce que sinon on ne comprendrait rien. Il serait très heureux qu'eux, mais néanmoins il réfute les études qui étaient ce lien, même si ce lien n'est effectivement pas univoque, simple, etc. Et effectivement, la réalité est complexe, mais la vraie position de Cahuc, parce qu'il faut que les gens le sachent, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi il dit ça, c'est pas du tout celle-là. La vraie position de Cahuc, c'est que c'est en baissant le coût du travail, en appliquant la loi...
Absolument pas.
El Khomri... Vous avez signé une pétition.
Mais ça serait quoi son intérêt
ça n'a aucun rapport avec la baisse de la durée du travail,
Benjamin Coria. Ça serait quoi l'intérêt de Pierre Cahuc de défendre cette position-là?
Mais c'est sa conviction. C'est sa conviction. C'est pas.
Donc l'économie, c'est ça, c'est conviction contre conviction.
Ben, en tout cas, dans un certain nombre de domaines, il est indispensable, essentiel, que des paradigmes rivaux puissent s'affronter, se développer, discuter. C'est la condition du progrès de la science. Ce qu'ils veulent faire, c'est introduire une espèce de ligne rouge en disant, en dehors de ceux qui sont entre nous, dehors.
Absolument pas.
C'est la fin du débat scientifique.
Ce n'est pas possible.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons, Benjamin Coriat, écrivez des articles sur le sujet et montrez-nous avec des données que quand on baisse la durée. Vous ne l'avez jamais montré avec des données que quand on baisse la durée du travail, ça crée des emplois.
J'ai cité les travaux de l'OFCE.
Ce sont des modèles théoriques.
Je pourrais citer les travaux du CEE, de Anedou. Pour ta gouverne.
Il n'y a pas de relation.
Mais l'expérimentation n'est pas du tout la seule technique pour obtenir un résultat.
Il faut mettre en évidence des relations de cause à effet. Il n'y a pas de mise en évidence des relations de cause à effet dans ces modèles, dans ces approches.
Il y a une relation de cause à effet, sauf qu'il y a effectivement plusieurs éléments qui interviennent. Faire le partage n'est pas aisé, mais expliquer que le passage aux 35 heures qui a créé 2 millions d'emplois à un moment où personne ne croyait et que c'était possible, n'a rien à voir avec les 35 heures, il faut se lever de bonne heure pour arriver à défendre ça.
Aucun travail, aucune étude n'a montré ceci.
Celui de l'OFCE, celui de l'INSEE, bien entendu.
Absolument pas.
Juste d'un mot,
baisse de charge.
Non, cela dit, on n'aura même pas le temps d'ailleurs de...
Alors, j'aurais pas le temps de poser ma dernière question. Pourquoi la baisse de charge du CUCE n'a pas créé en proportion 1 million d'emplois?
Tu l'as dit tout à l'heure, Benjamin, parce qu'elle n'est pas ciblée sur les bas salaires.
En tout cas, ce qui me semble vraiment intéressant, il y a eu énormément de choses dans cette discussion à laquelle je vous remercie tous les deux d'avoir accepté.
Vous voyez, j'avais indiqué sa position, c'est il faut baisser aux alentours autour du SMIC, etc. Et il ne répète que ça.
C'est la position des économistes sur le sujet.
Heureusement, non, c'est pas du tout la position du consensus. C'est ta position. Heureusement qu'il y en a bien d'autres.
En tout cas, je pense que de nombreux auditeurs auront découvert peut-être aussi un petit peu comme moi à quel point la science économique a du mal déjà à se mettre d'accord sur des questions de méthodologie, ce qui me paraît extrêmement préoccupant finalement par rapport à cette science. Mais bon, en tout cas, vous en avez parlé. Je vous remercie d'avoir accepté d'en débattre. Pierre Cahuc, donc je rappelle, le négationnisme économique et comment s'en débarrasser chez Flammarion.
Ça aurait pu Benjamin, être écrit par Éric Zemmour, hein, je répète. Hein.
Benjamin Coriat, des économistes atterrés. Tiens, je rappelle que vous avez dirigé Le retour des communs, la crise de l'idéologie propriétaire. C'est aux éditions Les liens qui libèrent. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Cyril Baer, Isolte Sicard, émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Bruno Gagnère, Fontanille. Demain, rendez-vous, notre troisième avec le Club des Observateurs. Quel penseur lire pour comprendre le monde d'aujourd'hui? Nous avons posé la question à Ludivine Bantigny, Brice Couturier, Sylvain Kahn et Julien Damon. Y aura-t-il des économistes dans leur sélection? Suspense jusqu'à demain 18h20.